Voilà, elle me plaît bien, la sœur qui a témoigné. Je crois que je vais me marier avec elle. Voilà, nous en sommes ce soir à la troisième richesse que l'apôtre Paul désirait ardemment pour les chrétiens d'Éphèse et pour laquelle il a fléchi les genoux devant le Père, demandant à Dieu que ses bien-aimés frères et sœurs dans la foi puissent expérimenter. La première, il dit qu'il prie afin que le Père puisse leur donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Cette richesse en engendre une seconde, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je sais que vous avez tous bien compris ce qui a été prêché cet après-midi. Je n'en doute pas un seul instant. Quelles sont les sœurs présentes ici qui sont mariées? Levez la main. Il n'y a pas de piège. Levez la main, levez la main. Viens où? Quelles sont les sœurs qui doutent que leur mari habite avec elles? Levez la main. J'en vois pas. Il n'y a pas de doute. Quand quelqu'un habite avec nous, on le sait. Où est le problème? Où est la question? On le sait. Il y a une présence. Il y a un contact, il y a une communion de tous les jours. Si une femme ne sait plus si son mari habite avec elle, il y a des questions à se poser là. Et si je ne sais pas si Christ habite en moi, j'ai des questions à me poser. Si vous demandez à me demander si Christ habite dans mon cœur ce soir, mais je vous dis j'ai aucun doute à ce niveau-là. Alors qu'il y ait des progrès à faire dans cette habitation, que Christ prenne de plus en plus de place dans la maison, bien sûr, ça ce sera jusqu'à son retour. Mais quant au fait qu'il habite en nous, mais quand c'est un fait, on le sait. On a un contact avec lui, on a une communion avec lui, on a une relation avec lui. Au cas où vous n'auriez pas compris ce que j'ai dit cet après-midi, mais c'est au cas où je ne crois pas du tout ça. Prenons le cas de deux fiancés. Ils se sont rencontrés. Ils s'aiment. Il y a une relation qui s'est établie. C'est incontestable. Puis vient le mariage. Mais le jour où lui et elle, le jour où lui et elle entrent pour vivre ensemble, ils ne vont pas s'aimer plus en franchissant le seuil de la maison. Ils ne vont pas commencer à s'aimer à partir de ce moment-là. Il y a une rencontre, il y a eu un lien d'amour qui s'est créé et qui se concrétise ensuite par une habitation. L'habitation n'est que le prolongement de la rencontre, de l'alliance, de l'amour qui s'est faite entre eux. On m'a demandé cet après-midi après la réunion combien de temps se passait-il entre la rencontre avec le Seigneur, la conversion et le fait que Christ habite en nous. Mais c'est un prolongement, c'est tout. Je rencontre le Seigneur, je lui donne ma vie, je me convertis et le Seigneur souhaite que cette visitation se transforme en habitation. C'est aussi simple que ça. Et Paul, qui savait que les Éphésiens étaient convertis, qui avaient vécu des choses glorieuses avec le Seigneur, prie maintenant pour que Christ habite en eux. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est que le verbe « habiter » dans le texte grec signifie « fixer sa résidence » et « gouverner ». Et je dis qu'il y a des chrétiens authentiquement convertis, mais dans la vie desquels Christ ne gouverne pas. Ils entendent encore tenir, eux, les rênes de leur vie. On ne peut pas mettre en doute leur conversion, mais ils ont besoin de progresser parce que Christ ne gouverne pas leur vie. Et à cause de cela, on ne peut pas dire que Christ habite dans leur cœur par la foi. Vous comprenez la différence ? Vous comprenez la différence ? Alors on va aller plus loin, vers la troisième richesse. Quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, nous allons vers une troisième réalité glorieuse. Paul dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin » il y a donc une suite logique « afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Il y a beaucoup de choses ce soir à partager ensemble. Je vais essayer d'être concis pour ne pas que la prédication soit trop longue. Mais la troisième richesse, c'est donc la compréhension de l'amour de Christ. Et vous aurez remarqué dans ce texte que deux termes apparaissent clairement, que l'on retrouve dans l'Épître aux Colossiens, enraciné et fondé. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul a écrit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » Je vais m'attarder quelques instants sur ces deux termes. Le terme enraciné, puisqu'il est question dans cette prière de Paul que les Éphésiens soient enracinés dans l'amour de Christ, le terme enraciné nous transporte dans le monde végétal. On pense à un arbre. Il y a des racines. Et nous le savons tous, l'arbre doit planter ses racines profondément dans le sol pour bénéficier de la nourriture et de la stabilité dont il a besoin. Et de la même façon, nous devons avoir nos racines spirituelles profondément implantées dans le Christ et dans son amour. La volonté du Seigneur pour nous ce soir est claire. Que nous soyons enracinés dans l'amour de Christ. Autrement dit, que nous n'ayons pas une vie spirituelle superficielle, mais profonde. Vous avez en mémoire les premiers versets du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le chrétien choisit ses conseillers, il choisit son chemin, il choisit ses compagnies, parce qu'il y a des conseils qui nous privent de profondeur, il y a des voies qui nous conduisent dans la superficialité, il y a des compagnies qui nous détournent de la relation profonde avec Christ. Le chrétien choisit son chemin, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et la parole de Dieu va vous encourager. À quoi ressemble un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Enraciné dans l'amour de Christ. Vous connaissez aussi ce texte magnifique du prophète Jérémie. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. À quoi ressemble un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui se confie dans l'Éternel et qui a comme espérance le Dieu vivant? Il est comme un arbre, tiens, ça recommence, planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir, que nos églises ont besoin d'hommes et de femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais pas seulement. Notre vie n'a pas seulement besoin de puissance, elle a aussi besoin de profondeur. Et nous avons besoin d'en gagner en profondeur. Laissons le Saint-Esprit nous faire avancer ce soir un peu plus dans le programme de Dieu, enracinés dans l'amour de Christ. Nos racines doivent plonger de plus en plus loin dans l'amour de Jésus. Jésus, soyons-en persuadés, Jésus lui-même peut communiquer à toute ta vie cette consistance, cette profondeur qui sont à l'opposé de la superficialité. Nous avons besoin de nous nourrir de Jésus. Nous avons besoin de nous nourrir de sa parole. Nous avons besoin d'apprendre à placer en Jésus une confiance totale. Et c'est ainsi que nos sentiments, nos mobiles, nos actions seront imprégnés de l'amour de Jésus. Quand je parle de la nécessité de grandir en profondeur, laissez-moi vous ramener à la première Pâque en Égypte. La mort allait frapper partout. Pas un foyer égyptien n'a été épargné. Il y a eu des cris dans tous les foyers. Tout premier-né est mort cette nuit-là. Mais pour Israël, c'était différent. Dieu a institué la Pâque. On a pris l'agneau. On l'a égorgé. On a recueilli le sang. Et on a placé le sang sur les poteaux et le linteau de la porte. Et ce qui me réjouit quand je lis ce texte dans l'Exode, c'est que Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Celui qui est en mesure d'apprécier la puissance du sang et l'efficacité du sang, heureusement que ce n'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui voit le sang. Bien sûr, nous l'avons vu et c'est pour ça que nous nous sommes convertis. Un jour, le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs et nous a permis de comprendre la croix. Il nous a permis de comprendre le sacrifice expiatoire de Jésus. Il y a eu là une substitution. Il est mort à notre place. Et nous avons compris par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais je me réjouis de savoir qu'au-delà de ma faiblesse, de mes incompréhensions, de mes limites, c'est quand même mon Dieu qui voit le sang. C'est lui qui le voit et c'est lui qui l'apprécie à sa juste valeur. Mais la Pâque, ce n'est pas que ça. On récupérait l'agneau et on le faisait rôtir. Et cet acte-là parle prophétiquement de toutes les souffrances de la croix. Et on allait manger l'agneau. Comment ? Les souliers aux pieds, les reins sains, le bâton à la main. On n'était pas attablé confortablement. On mangeait la Pâque dans une attitude de marche, prêt à partir. D'ailleurs, cette même nuit, on est parti. Être sous le sang, ce n'est pas pour s'installer dans le confort. Être sous le sang, c'est pour partir, quitter l'esclavage, quitter le Pharaon, quitter l'Égypte, quitter l'idolâtrie et avancer vers une voie de prodiges et de miracles, vers Canaan, la terre promise. Et Canaan, contrairement à ce que disent certains de nos cantiques, n'est pas l'image du ciel. On ne se battra pas au ciel. Or, en Canaan, on n'a fait que ça. Canaan, c'est l'image de la vie chrétienne dans laquelle nous entrons après être sortis de l'Égypte. Il y a une terre promise dans le Christ. Il y a un héritage dans le Christ. Et c'est vers ça que nous allons jour après jour. Et alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a dans nos églises des chrétiens qui ont une Pâque boiteuse. Christ, notre Pâque, a été immolé. On a des chrétiens qui sont sous le sang. Ça, on ne peut pas nier ça. Ils ont échappé à la mort. Ils ont échappé au jugement qui est réservé à ce monde. Ils ont placé leur foi dans le sang de l'agneau et ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Ah, vous commencez à bien me connaître, ça fonctionne bien. Je vous aime bien, je vous aime de plus en plus. Ils sont sauvés. Il y a le sang sur les poteaux et le linteau de leur cœur. Mais l'agneau rôti n'est pas descendu dans les entrailles. Ils n'ont pas mangé l'agneau. Ce sont des chrétiens sauvés, mais faibles. Des chrétiens sauvés, mais sans force. Des chrétiens sauvés, mais qui ne marchent pas. Des chrétiens sauvés, mais qui n'avancent pas. Parce qu'ils se sont contentés d'être pardonnés. L'agneau n'est pas descendu dans leur cœur. Et là, vous comprendrez mieux le message de cet après-midi. Ils sont sauvés à cause du sang. Mais il faut que l'agneau habite dans le cœur. L'agneau n'a pas habité dans le cœur, dans l'estomac, dans les entrailles, parce qu'il y avait le sang. Après avoir placé le sang, il fallait manger l'agneau. Et il ne faut pas seulement que le sang de Jésus ait purifié ton cœur. Il faut dire, Seigneur, je suis d'accord avec la croix. Il faut que tu mettes à mort dans ma vie mon égoïsme, ce désir de gouverner moi-même ma vie, cette indépendance, cette volonté personnelle, ce caractère qui s'affirme. Oh, que l'agneau rôti descende au plus profond de mon être, que Christ habite dans mon cœur par la foi. Et c'est de cette façon-là, alors, que nous allons être enracinés dans son amour. Le deuxième terme, fondé, enraciné et fondé dans l'amour, nous retrouvons cela, je l'ai dit, dans l'Épître aux Colossiens. C'est un terme qui appartient à l'architecture. Les racines, c'est l'arbre. La fondation, c'est l'édifice. Il évoque les fondations sur lesquelles nous bâtissons. Un architecte a dit ceci. Je vous cite ses paroles. La partie la plus importante d'un bâtiment, c'est la fondation. Il a ajouté, si vous n'allez pas en profondeur, vous ne pouvez pas monter en hauteur. Et le plus grand des architectes dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Eh bien voilà ce que le plus grand des architectes a pu dire. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Et à l'époque, il n'y avait pas les engins d'aujourd'hui. Quand quelqu'un, à l'époque, creusait profondément. Parce que Jésus insiste. Il y a deux fois le verbe creuser et ensuite le mot profondément. Creusez profondément. Vous êtes à 2 mètres du trou et vous dites on ne le voit plus. Alléluia. Quand on ne vous voit plus, qu'est-ce que c'est bien? Vous comprenez? Si on te voit, c'est que tu n'as pas encore assez creusé. Creuse jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Parce que quand on creuse profondément, ça ressemble étrangement à une tombe. Et si tu veux que lui soit élevé sur ta vie, il faut que toi t'ailles dans le trou et que tu disparaisses. C'est le maître de l'architecture qui a dit ça. Il a creusé profondément et il a posé le fondement sur le roc. Parce qu'avant de trouver le roc, parfois il faut descendre profond. Le roc, tu ne l'as pas forcément tout de suite. Alors après, c'est une vie tranquille? Pas du tout. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le reste, vous savez, l'autre maison, elle tient pas parce qu'il n'y a pas eu une fondation solide. C'est la tempête qui met à l'épreuve la solidité de nos fondations. Paul priait et il disait, mais je prie pour vous les Éphésiens, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et il ajoute, afin que vous puissiez comprendre. Il faut que nous puissions comprendre toute l'étendue de l'amour de Christ. Et cette compréhension spirituelle des choses de Dieu, prenons courage encore ce soir, c'est un don que Dieu nous accorde par son Esprit Saint. Parce qu'on peut se dire, comprendre l'amour de Christ, mais comment est-ce que je pourrais comprendre l'amour de Christ? L'apôtre Paul ne parle pas ici de notre intelligence humaine. Il ne parle pas de notre connaissance intellectuelle. Elles n'ont aucune puissance, aucune efficacité. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Corinthiens. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Tu aimes le Seigneur, alors réjouis-toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. La parole de Dieu ajoute, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, il nous les révèle par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand le sénateur maire et le député étaient là, jeudi soir, rappelez-vous, dans le message d'introduction, j'ai dit que je souhaitais que cette mission nous permette de mettre la main sur ce que Dieu a préparé pour nous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai dit ça. Eh bien, on y est ce soir. Pourquoi? Parce que quand l'apôtre Paul dit « Il faut que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour afin que vous puissiez comprendre », on aurait tendance, nous, à comprendre qu'il faut comprendre avec la tête. Or, la fille avec laquelle je vais sûrement me marier connaît le grec. Et alors, le mot grec qui a été traduit ici dans la version seconde par comprendre veut dire, écoutez-moi parce que c'est drôlement intéressant, il veut dire saisir. S'emparer d'eux, prendre, mais prendre comme on prend une place, occuper, mettre la main sur, atteindre, saisir au moment opportun, trouver. Donc c'est bien autre chose que d'essayer de comprendre avec l'intelligence. Vous allez être enraciné, fondé dans l'amour, et vous allez pouvoir alors vous en emparer. Vous allez pouvoir mettre la main dessus. Vous allez pouvoir occuper la place dans l'amour de Christ. C'est pas essayer de comprendre avec l'intelligence, c'est le prendre, c'est le trouver, c'est le saisir. Voilà ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Il ne nous suffit pas de comprendre l'amour de Jésus, mais de le faire nôtre, qu'il devienne notre propriété. Et le Seigneur désire que nous entrions en possession des vastes étendues de son amour. Il y a là un territoire à conquérir, mes frères et sœurs. Il faut que nous ayons de l'appétit. Quand on lit le livre de Josué, au bout d'un moment, on voit qu'il y avait un certain nombre de tribus qui n'avaient pas bougé d'un millimètre, et le responsable spirituel est obligé de dire « Mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de votre héritage ?» Il faut que nous soyons des chrétiens pleins d'appétit spirituel, des chrétiens pleins d'ambition. « Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as permis d'être baptisé d'eau, tu m'as baptisé du Saint-Esprit, où tu vas le faire ce soir, alléluia !» Eh bien, Seigneur, je désire maintenant avoir de l'ambition. Il y a devant moi un vaste territoire, c'est ton amour, et je désire m'en emparer. Je désire le saisir, et le saisir au moment opportun. Et le moment opportun, Seigneur, c'est pas demain, c'est ce soir. Fais-moi entrer, commencer à entrer dans cette richesse. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, Abraham s'est retrouvé seul avec son Dieu, et Dieu lui a dit, regarde, vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, je vais te donner un conseil, Abraham. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, parce que je vais te le donner. Abraham a été appelé à aller dans deux dimensions. Dieu dit, parcours le pays dans la longueur et dans la largeur. Mais avec notre Dieu dans la Nouvelle Alliance, on entre dans quatre dimensions. Parce que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, notre cher apôtre Paul, nous parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Christ. Si Abraham était placé devant deux dimensions et qu'il devait avancer par la foi et dans la foi pour s'emparer de son héritage, pour nous, il y a quatre dimensions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous fait entrer dans quelque chose de magnifique, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Là, j'insiste aussi là-dessus, courtement, mais j'insiste. Ceux qui peuvent lire la parole de Dieu reliront l'Épître aux Éphésiens et découvriront que l'expression « tous les saints » revient quatre fois dans l'Épître. Il faut que nos cœurs ne perdent jamais conscience de la communion sainte et spirituelle qui existe entre nous tous, les membres véritables du corps de Christ. Et je dis quelle bénédiction et quelle intervention divine si nous suivons la voie tracée ici par le Seigneur. Pourquoi ? Est-ce que je vais chercher et prier pour être enraciné et fondé dans l'amour de Jésus? Pourquoi est-ce que je vais prier afin que Dieu m'aide à mettre la main sur son amour et à m'en emparer? Pour que je puisse dire, voilà quel chrétien je suis. L'apôtre Paul remet les choses d'aplomb. Il dit que vous puissiez saisir, mettre la main sur, avec tous les saints. Je voudrais ici vous lancer encore un avertissement. La connaissance que l'on veut garder jalousement pour soi-même conduit infailliblement à l'orgueil spirituel. Et c'est en vue de l'utilité commune, du bien que je peux faire aux autres, que des lumières nous sont personnellement accordées. Il faut comprendre qu'il nous faut comprendre avec tous les saints et que je ne vais pas chercher à faire des progrès pour me valoriser, pour dépasser les autres, mais pour établir avec eux une communion qui va les aider aussi à grandir avec le Seigneur. Et c'est de cette façon que nous serons complémentaires les uns des autres. Permettez-moi, très courtement, très simplement, de revoir avec vous les quatre dimensions de l'amour de Jésus. C'est élémentaire, vous le savez, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'élémentaire finalement quand ça touche la personne de Christ? La largeur de son amour. Regardez-le sur la croix, les bras étendus, comme pour nous dire que son amour s'étend à tous les hommes. Chaque créature, chaque enfant de Dieu est compris dans cet amour. Je vais vous citer un verset que vous avez entendu 1000 fois, ça sera la 1001e ce soir. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est la largeur de l'amour de Christ, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est la largeur de son amour. Les gadjots, oui, mais aussi ceux qui sont dans les chemins et le long des haies, les voyageurs, ceux qui dans la parabole sont appelés les derniers au festin des noces parce qu'après la porte est fermée. Vous êtes un signe des temps. C'est pour soi, notez bien ce que le Saint-Esprit va faire au milieu de votre peuple. Vous êtes l'un des grands signes positifs des temps de la fin. Vous êtes le peuple que le Seigneur mondialement appelle comme étant les derniers. Avec vous, la salle des noces se remplit et avec vous, c'est fini. Priez pour votre peuple parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit mondialement va faire des choses que vous ne soupçonnez pas ce soir. Et à cause de ça, je voudrais aussi vous dire, moi le gadjo, que vous devriez saisir cette mission à bras-le-corps. Parce que Dieu est en train de placer devant vous un programme dans lequel il vous attend. Dans lequel il vous attend. Comprendre la largeur de l'amour de Dieu. Il m'est arrivé de travailler dans une église raciste. N'aimait pas les Africains ni les Gitans. Et comme je suis un peu provocateur sur les bords, un dimanche matin, j'ai fait distribuer la Sainte-Seine uniquement par des frères et sœurs africains de l'église. Et j'ai dit un jour à l'église, c'est pour ça que certains m'ont beaucoup aimé. J'ai dit, vous savez, si au ciel vous vous retrouvez entre deux gitans, vous allez trouver le temps long. Et j'ai ajouté, remarquez, avec les sentiments que certains ont pour les gitans, vous risquerez pas de vous retrouver au ciel. Est-ce que nous avons vraiment compris avec tous les saints la largeur de l'amour? Comprendre avec tous les saints la largeur de l'amour. Moi, le gadjo, le gitan converti à Jésus-Christ, c'est mon frère. Et moi, le gitan, le gadjo converti, c'est mon frère. C'est pas sens unique. On comprend avec tous les saints la largeur de l'amour de Dieu. On met la main dessus, on s'en empare. Il y a un seul corps, l'Église de Jésus-Christ. La longueur. Christ nous a aimés d'un amour éternel. C'est quelque chose qui nous dépasse et je vous accorde qu'il nous faut bien toute l'action du Saint-Esprit pour saisir ça. Ça nous dépasse. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quand on lit le début de cette lettre aux Éphésiens, on est écrasé devant la splendeur de l'amour de Dieu. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Il n'y avait aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète, ni le soleil, ni la lune, ni la terre, il n'y avait rien. Il t'avait déjà élu dans son amour à être son enfant d'adoption. C'est quelque chose qui nous bouleverse Il ne mérite pas d'être aimé, le Seigneur. La longueur de son amour. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Jusqu'à quand nous aimera-t-il ? Jusqu'à la fin. Il est dit dans cette même épître aux Éphésiens que dans sa miséricorde, Dieu veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce dans les siècles à venir et la profondeur de son amour. D'où le Seigneur t'a tiré, mon frère. Mon épouse a dit tout à l'heure, si le Seigneur n'était pas venu, où est-ce que je serais ? Mais toi, tu sais d'où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi là où il est venu te chercher. Dans quelle fange ? Dans quelle boue ? Ah, j'aime ce texte du livre d'Ésaïe où le Seigneur dit à un moment, portez les regards sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. On était au fond, il nous a tirés par des cordages d'amour, par des liens d'humanité. C'est bien de temps en temps de revenir là et de dire « Oh là 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 !» La profondeur de son amour, il est venu me chercher si bas. Quand on lit l'Évangile, avec qui Jésus a-t-il accepté de manger ? Ça a choqué les gens religieux. Quelle sorte de gens osait-il accueillir ? Il y a un texte, moi, « Oh, j'aurais voulu être petite souris ce jour-là » pour assister à ça. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'entendre. J'imagine de là les pharisiens drapés dans leur religion. Méchante réunion. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, les voyous, les vicieux, les tordus, les dégoûtants, les pourris de la société, ils étaient là pour l'entendre. Pourquoi ? Parce qu'il les approuvait, mais il le savait bien qu'il ne les approuvait pas. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'étaient pas dans les synagogues ? On les aurait fichus dehors. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là autour de lui pour l'entendre ? Parce qu'ils ont compris la profondeur de l'amour. Ils savaient qu'il pouvait venir jusqu'à eux dans leur puits, dans leur gouffre. Ils les aimaient, ils n'aimaient pas leur vie. Ils n'aimaient pas leur péché, et le Seigneur n'aime pas ta vie de péché, mais il t'aime, toi. Et ce soir, il descend dans ta profondeur pour te tirer de là. Merveilleux amour de Jésus, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est dans cette épître aux Éphésiens, ça aussi. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous marchiez là selon le prince de la puissance de l'air. C'est quelque chose d'affreux, une vie de misère, un gouffre terrible. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Ah, se rappeler la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur. Ouf, c'est encore plus grand que la profondeur. Jacob était en chemin, pas un très bon chemin, c'était une fuite. C'est jamais bon de fuir. Quand on fuit, il faut revenir. Toujours. Verrez tous ceux qui passent leur temps à fuir dans la Bible, à un moment donné, s'ils veulent que ça change, il faut revenir. Jacob a dû revenir, Jonas fuyait, il a dû revenir. C'est jamais bon de fuir. Enfin, toujours est-il que même dans ce chemin-là, le Seigneur patiente avec Jacob et à un moment donné, il s'arrête pour passer la nuit, puis il a un songe. Une échelle appuyée sur la terre. Il y a des frères qui sont des artisans qui ont besoin d'une échelle pour travailler. Levez la main. Ouais, vous êtes tous des feignants, quoi. Bon. Donc une échelle. Une échelle appuyée sur la terre. Et dans le songe, il a vu le sommet de l'échelle qui touchait au ciel. Et les anges de Dieu qui montaient et descendaient par l'échelle. Il y a quelque chose donc là qui relie la terre au ciel, une échelle. appuyé sur la terre, il va jusqu'au ciel au point que les anges peuvent monter et descendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je passe les pages de ma Bible, et puis de la Genèse, j'arrive à l'évangile de Jean. Nathanaël se pointe devant le Seigneur Jésus, qui dévoile sa vie. Et là, Nathanaël réalise qu'il a affaire au Messie. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Et vous allez voir des choses plus grandes que celles-là. Désormais, Nathanaël, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et du coup, tout s'éclaire. Mais alors, la véritable échelle, c'est Jésus. Celui qui touche le ciel et qui touche la terre en même temps, c'est Jésus. Et pendant qu'il était sur la terre, parce qu'il est à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, pendant qu'il était sur la terre, vous avez un texte de l'Évangile qui parle de lui et qui dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il ne dit pas qui sera, mais qui est. C'est quelque chose qui est mystérieux, qui touche l'incarnation, qui nous dépasse. Mais il était à la fois sur la terre et dans le ciel. En tout cas, c'est écrit comme ça. Il est l'échelle qui à la fois touche le ciel, touche la terre, et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Il est le médiateur. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la hauteur de son amour. Il est venu chercher dans notre vie, dans son gouffre, et il nous fait monter jusque dans les hauteurs de son ciel. On ne peut pas monter plus haut que ça. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Nous allons vers le meilleur. Nous allons vers le plus glorieux. Nous sommes en marche. On va toujours grandir dans la compréhension de l'amour de Jésus jusqu'au moment où on va se retrouver là-haut. Mais déjà dans le cœur, le Saint-Esprit fait quelque chose. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit « Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur. » Le Saint-Esprit nous tire vers le haut. Il nous enracine, il nous fonde dans l'amour de Jésus. Et puis il nous donne de mettre la main sur cet amour-là. Et il y a des moments où il saisit nos cœurs et il nous permet avec les yeux de la foi de voir Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il faut que nous ayons toujours davantage la vision des dimensions infinies de l'amour de Christ. Et je termine. Que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors là, quand on lit l'Épître aux Éphésiens, pour moi, cette Épître-là, c'est un sommet. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, mais il y a quand même là, je crois, un sommet. On est complètement dépassé dans nos dimensions humaines. Il est question des richesses incompréhensibles de Christ. Il est question de l'infinie richesse de sa grâce. Et là, il est question de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quand Paul écrira aux Philippiens concernant la paix de Dieu, il dira que cette paix qui surpasse toute connaissance. Je crois que ce soir, nous pouvons nous faire une idée des dons merveilleux de l'amour de Jésus envers nous. Mais il faut que nous soyons conscients, et nous le sommes, que cet amour lui-même nous dépasse infiniment. La tendresse de Jésus, la puissance de Jésus, la pureté de Jésus, la ferveur de cet amour de Jésus envers son Père et envers nous. Je vous le dis, vous serez toujours déçus par l'amour humain. Toujours. Parce que vous en découvrirez les limites. Mais vous ne serez jamais déçus par l'amour de Jésus. Vous pourrez toujours en faire de nouvelles découvertes et à l'infini. Il surpasse toute connaissance. Nous n'en connaîtrons jamais l'immensité. Ce soir, en conclusion, je dirai ceci. Ne vous inquiétez pas face aux nécessités de votre vie à tous égards. Mon frère, ma sœur, tu as des besoins ce soir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Tu as des besoins dans ta vie de couple. Jeune fille, tu as des besoins sur le plan affectif. Jeune homme, tu as des problèmes pour une victoire au niveau d'un péché secret qui te tient. Nous sommes désireux d'une bénédiction qui tarde. Nous savons que Dieu désire que nous entrions dans cette bénédiction. Nous sommes impatients, nous sommes pleins de désir et pourtant en même temps inquiets parce que nous voudrions nous emparer de cette grâce. Nous avons aussi des besoins matériels, nous avons des soucis concernant notre Église, quelques soucis peut-être concernant des relations fraternelles qui se sont détériorées, et nous comprenons que tout cela n'est pas forcément agréable aux yeux du Seigneur. J'oserais vous dire que face à toutes ces nécessités, ne vous inquiétez de rien parce que vos ressources spirituelles, ce soir, sont en Christ. Je ne sais pas si le Saint-Esprit a besoin de vous ramener vers la largeur de son amour pour que vous puissiez régler un problème avec l'autre et ne pas sortir de cette salle dans un état de conflit. Besoin d'aller le trouver et vous réconcilier. Si je suis en conflit ce soir dans cette salle et que je sors sans aller trouver mon frère, je n'ai pas reçu 5/5 le message de l'Esprit. Il s'agit ce soir de mettre la main sur la largeur de l'amour. Peut-être, ma sœur, ce soir, tu es découragée et tu te dis, mais je prie et je ne vois rien. C'est pire qu'avant. Je prie, et c'est comme ça depuis des années, et ça ne change pas. Mets ce soir la main sur la longueur de l'amour. Il t'aime encore ce soir. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Dieu dit, mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Il t'aime ce soir encore, et demain, et après-demain, mets la main sur la longueur de l'amour de Jésus et espère ce soir, espère. Il est fidèle. Tu sens quelques bouffées de chaleur, quelques bouffées d'orgueil, tu te dis quand même, je suis quelqu'un de bien maintenant, hein? J'ai un service dans l'église. Et parfois, tu sens quelques bouffées comme ça, qui, je sais pas, une espèce de suée spirituelle. Mets la main sur la profondeur de l'amour et souviens-toi d'où il t'a tiré. Et redeviens un peu humble avant que tu ne passes à la moulinette du Seigneur. Et puis là, tu souffres dans ta médiocrité, tu... Mets la main sur la hauteur de l'amour de Christ et dis qu'il a le pouvoir de te faire régner avec lui maintenant, maintenant. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, dit Paul, régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le Seigneur ne se réjouit pas d'une église qui subit la vie. Le Seigneur désire une église qui règne dans la vie. Le Seigneur veut faire de nous des reines et des rois, des princes et des princesses qui ne subissent pas la vie, qui ne courbent pas les chines devant la vie, mais qui disent, quelle que soit la vie, je règne dans la vie par Jésus-Christ. parce que le Saint-Esprit m'a permis, me fortifiant dans l'homme intérieur, faisant habiter Christ par la foi, il m'a permis de mettre la main sur la hauteur de l'amour. Et je sais que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Un homme, jeune homme, descend de la tour Eiffel. Puis il rencontre, lui le jeune homme, un homme d'au moins 70 ans. Puis lui dit, « Monsieur, je vous ai vu quand vous étiez petit. » Et l'homme de 70 ans s'adresse au jeune homme, il dit, « Tu m'as vu quand j'étais petit ?»« Ah oui, monsieur, je vous ai vu quand vous étiez petit. » Il se dit, « Pas bien celui-là. » Et quand est-ce que tu m'as vu quand j'étais petit ? Ben, il y a 2 minutes quand j'étais en haut de la tour Eiffel. Nous sommes, mon épouse et moi, tombés amoureux de la vallée de Chamonix. Ça fait plus de 20 ans qu'on y va tous les ans. Quand vous êtes dans la vallée et que vous regardez le Mont Blanc, c'est impressionnant. Mais je sais que ceux qui sont en avion et qui sont bien au-dessus et qui survolent la chaîne du Mont Blanc, ben finalement, le Mont Blanc n'est pas si impressionnant que ça. Quand vous êtes en bas, certaines choses ont une dimension impressionnante. Mais quand vous êtes en haut, les choses deviennent plus petites. Et quand vous êtes tout là-haut, elles sont insignifiantes. Quand vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais tout devient tellement insignifiant. Goliath était impressionnant, hein ? Et le peuple d'Israël regardait Goliath d'en bas. Et tout le monde fuyait. Regardez-le, le petit blond. Ça mène, lui, comme un berger, avec sa gibecière de berger, ses 5 pierres polies. Quelle audace, comment il parle au géant, celui-là. Mais qui es-tu, toi, pour insulter l'armée de l'Éternel ? Tu vas voir un peu, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, et je vais donner ton cadavre en pâture aux oiseaux du ciel. Oh, putain, trafla, tum, boum, clac. Ceux qui écoutent le CD vont rien comprendre à ce moment-là. Vous savez pourquoi ? Parce que David, tout jeune berger qu'il était, il avait pris de la hauteur avec son Dieu. Il ne voyait pas Goliath avec les yeux du peuple. Lui, il avait pris de la hauteur. Prends de la hauteur. Ton épreuve te paraît importante parce que tu es en bas. Le diable t'a fait demeurer en bas. Laisse-toi faire par le Saint-Esprit. Permets au Saint-Esprit que tu mettes la main sur la hauteur de l'amour de Jésus. Et alors s'il t'élève par la foi, tu vas dire, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que mon épreuve dans les mains de Jésus ? Qu'est-ce que c'est que ma souffrance ? Qu'est-ce que c'est que mon problème ? C'est rien pour le Seigneur. Il va agir dans sa grâce. Amen. Alors le point culminant, c'est demain matin. Parce qu'alors là, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous allez dire, oh ben écoutez, c'est formidable, mais j'y crois pas, moi je vais faire la grâce matinée. Venez quand même. Dieu veut que nous soyons remplis jusqu'à toute sa plénitude. Alors nous viendrons essayer de découvrir ce programme-là demain matin. Nous allons en attendant nous recueillir et prier le Seigneur. Seigneur, nous avons prié, nous ne nous lasserons pas de le faire, pour être fortifiés par ta force toute puissante dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit. Nous avons prié et nous prierons encore pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi, qu'il s'établisse dans notre vie et qu'il gouverne. Et nous prions maintenant, et nous ne cesserons de le faire, pour être de plus en plus enracinés et fondés dans l'amour, et comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Seigneur, bénis chacune de nos vies ce soir. Il y a des besoins. Permets que nous secouions la vipère dans le feu et que nous puissions secouer l'emprise de l'épreuve sur nos vies et que nous prenions de la hauteur avec Christ pour confesser qu'avec lui et en lui nous sommes au-dessus de tout et au-dessus de tous et que nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je te glorifie pour cette soirée, pour tout ce que tu veux faire par le Saint-Esprit. Voudriez-vous que nous restions recueillis très respectueusement dans la présence de Dieu quelques secondes? Et au fond de notre cœur, en évitant tout déplacement, en essayant de tenir nos enfants tranquilles, au fond de notre cœur, dans une prière que personne n'entendra, nous pensons à notre situation. L'un de nous aura besoin de mettre la main sur la largeur de l'amour. Un autre au milieu de nous aura besoin ce soir de mettre la main sur la longueur de l'amour. Un autre sur la profondeur. Un autre sur la hauteur. Quel que soit notre besoin, là, dans une prière intérieure, intercédons. Prions intensément au fond de notre cœur. Nous connaissons notre besoin, nous connaissons notre situation. Et là, nous voulons implorer fortement le Seigneur. Seigneur, voilà mon besoin. Voilà ma situation ce soir, voilà mon besoin. Seigneur, je désire une grande bénédiction, une grande victoire. Saisis-moi. Saisis-moi. Que je puisse comprendre avec tous les saints, mettre la main sur cet amour de Christ. Gloire à Dieu. Nous n'aurons pas le temps d'étudier ce texte, mais je vous le cite comme une bouffée d'encouragement. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est la fin de notre texte, infiniment au-delà de tout ce que nous dépendons ou pensons. C'est pas merveilleux, ça? Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ce soir. Que son nom soit glorifié.